n'y a pas d'enseignement prévu aujourd'hui pour les enfants. Ça va être dans les annonces. On va essayer de programmer une réunion par Zoom avec les moniteurs cette semaine pour essayer d'organiser une reprise, mais c'est compliqué avec les règles sanitaires et autres, hein, évidemment. Merci de votre compréhension en tant que parents. Mais en tout cas, en tant que conseil, on souhaite effectivement offrir, proposer un enseignement adapté pour les enfants. Donc ça va reprendre semaine prochaine. Mais effectivement, il faut qu'on trouve le bon format pour être respectueux des règles qui sont à mettre en place et des desiderata des uns et des autres aussi. Merci de votre compréhension. Je peux mettre la première, je ne sais pas si ça marche. J'ai soif du Dieu vivant. On l'a lu, on l'a exprimé. Qui d'entre nous partage cette aspiration? Qui a soif du Dieu vivant. Pas seulement ce matin, évidemment, pas seulement dans les temps difficiles, c'est déjà pas si mal si nous avons déjà ce bon réflexe en ces moments-là, mais puissions-nous avoir cette soif au quotidien, et moi le premier. Pas seulement comme l'expression d'un manque ou d'un vide, mais vraiment comme un ardent désir, chaque instant, d'une plus grande relation, une plus profonde communion avec notre Dieu, le Dieu vivant. Comme dit une expression, quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Est-ce que c'est vrai aussi dans notre relation avec Dieu? Ça devrait être le cas, en tout cas pour nous chrétiens. Et ce matin, comme annoncé, je vous invite à parcourir quelques versets de la lettre aux Romains, dans son chapitre 9. Un chapitre avec certaines considérations un peu compliquées que nous n'aborderons pas ce matin, mais semaine prochaine normalement. Pas pour les esquiver, mais j'ai encore un peu besoin de temps de préparation aussi. Ce chapitre nous pose de brûlantes questions. Et ce matin, on va plutôt parcourir les belles promesses, les affirmations qu'il y a dans ce chapitre. Je mets la numéro 2. Romains chapitre 9, je lis les versets 24 à 26. Dieu nous a appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les non-juifs. C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée. J'appellerai mon peuple, dit Dieu, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Ils seront appelés fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Qui est Dieu pour vous? Et réciproquement, selon ce passage, qui sommes-nous pour Dieu? Ses fils et ses filles. Avec tout le respect, toute la reconnaissance de ma petitesse par rapport à lui, je pense que sur la base de cette affirmation de Dieu à mon égard, je ne peux que dire avec joie, assurance, mais sans arrogance, mais quand même avec une fierté énorme, Dieu, c'est mon Père. Dieu, c'est mon Père. Je suis son fils. Waouh! Êtes-vous en bon terme avec votre Père? Entretenez-vous une bonne relation avec lui? Avec notre Père terrestre, ce n'est pas toujours évident. J'en sais quelque chose. Mais avec notre Père céleste. Avec notre Père céleste. J'ai soif du Dieu vivant. Eh bien, ça tombe bien, je suis fils ou je suis fille du Dieu vivant. C'est énorme, extraordinaire, fabuleux. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas encore pleinement réalisé toute la portée, toutes les implications de cette réalité merveilleuse. Oui, une réalité merveilleuse. Enfin, j'espère. Je n'étais rien, moins que rien, pas grand-chose. Il n'est pas nécessairement obligatoire de se rabaisser inutilement. Et Dieu m'a adopté. Dieu m'a élevé. Dieu a fait de moi un membre de sa famille, un proche, un intime, un fils. Que le Saint-Esprit vivant en nous nous fasse tressaillir d'allégresse à ce rappel, pour nous faire pleinement sentir toute la communion au privilège extraordinaire que nous pouvons alors vivre, la communion que nous pouvons alors vivre avec lui, intensément, intimement. Mon âme bénit l'Éternel, oui, mon âme bénit l'Éternel, ton Père. Cette semaine, et pas seulement cette semaine, je nous invite vraiment à prendre du temps pour méditer ces passages, à réfléchir à cette réalité désormais la nôtre en Jésus-Christ, en nous demandant, mais quelle conscience j'en ai? Quelle portée ça a dans ma vie? Quelle incidence dans ma façon de vivre mon quotidien? Quel impact dans ma foi, ma relation avec Dieu, mon intimité avec lui, et par extension, ma relation avec les autres. Oh, je prie pour un approfondissement pour chacun et chacune d'entre nous de cette relation avec Dieu notre Père. Ce qui amènera nécessairement un renouveau dans nos vies, un approfondissement de notre spiritualité et une spiritualité vécue à titre personnel, en famille, en église. Et en ce sens, moi je dis, j'ai soif du Dieu vivant. Et vous? Nous l'avons déjà vu dans des prédications passées, mais l'apôtre Pierre exprime aussi la même chose. Lui qui avait quand même eu un peu de mal, hein, à cause de son formatage culturel juif, à saisir que Dieu pouvait et voulait sauver des non-juifs. Si tu mets la 3, s'il te plaît. Encourageant ainsi les chrétiens à la fin de sa vie, Pierre a écrit, à Pierre de 9 et 10, un verset que j'aime particulièrement, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, l'évoquait tout à l'heure, des prêtres royaux. On n'aime pas trop ce mot-là, peut-être, mais à cause des connotations historiques qu'il y a pu y avoir, mais nous sommes cela devant Dieu. Un privilège de pouvoir venir devant lui en tant que prêtre, parce que dans l'Ancien Testament, seuls seuls eux avaient ce privilège de pouvoir se présenter devant Dieu, et encore, pas dans le lieu très saint. C'est pour ça qu'on peut être appelé comme ça, parce que nous avons maintenant un accès dans le lieu très saint. Des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Lui aussi cite, comme l'apôtre Paul, des paroles du prophète Osée, en fait. On n'a malheureusement pas le temps de parcourir tous les passages concernés écrits par ce prophète 800 ans, quand même, hein, 800 ans avant Jésus-Christ. Mais j'en lis quand même un, qui passe à la numéro 4. Un passage qui précise les intentions de Dieu 800 ans avant que Jésus ne vienne sur la façon dont il va procéder. Osée chapitre 2. « Je te fiancerai à moi pour toujours. » dit-il au peuple d'Israël, « je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité. Et tu connaîtras, ou reconnaîtras, selon certaines versions, l'Éternel. » Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il est l'Éternel des armées. Il est un Dieu redoutable, énonce à maintes reprises l'Ancien Testament. Mais ouf! Dans sa grâce, ce n'est pas de cette façon qu'il se manifeste premièrement, même dans ces temps qui sont les temps de la fin, mais c'est par la justice, la droiture, la bonté, la compassion, la fidélité qu'il a procédé. Par sa justice, sa droiture, sa bonté, sa compassion, sa fidélité, pas celle du peuple d'Israël, pas la nôtre. Et il a fait de nous ses fils et ses filles. Il a fait l'Église, Et il fait de l'Église la fiancée du Seigneur, son peuple, par ces biais-là. Justice, droiture, bonté, compassion, fidélité incarnée. Incarnée en Jésus-Christ, le parfait, le sauveur. Et il faut bien le comprendre, ce n'est pas juste parce que Dieu est bon et compatissant. C'est vrai, évidemment, puisque c'est sa nature même. Mais il a fallu l'incarnation, il a fallu la vie, le ministère, la mort, puis la résurrection de Christ pour que l'adoption, notre adoption, soit possible. Pour que la rédemption soit effective, dans sa souveraine sagesse, Dieu en avait décidé ainsi. Même si c'est déroutant, et même inacceptable pour beaucoup. Oui, pas facile à comprendre et à accepter ce Jésus. Il est cause de bien des problèmes, si je peux me permettre de dire cela. Et c'est ce que Paul dit aussi de façon quelque peu énigmatique à la fin de ce chapitre 9 de Romains, en citant encore un autre passage de l'Ancien Testament, une parole cette fois-ci du prophète Ésaïe, un contemporain d'Osée d'ailleurs. Si tu mets la 5, c'est là, voilà. À la fin du Romains 9, versets 32-33, « Ils ont buté contre la pierre qui fait tomber, celle dont parle l'Écriture. Moi, dit Dieu, je place en Sion une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Celui qui met en lui sa confiance ne sera jamais couvert de honte. » Pas évident, il faut un peu un décodeur pour comprendre ce genre de paroles. Mais comme nous l'avons aussi vu dans des prédications sur la lettre de Pierre, l'image d'une pierre, d'un rocher, est utilisée pour Jésus dans un parallèle avec le fait que Dieu lui-même, et la Bible exprime à maintes reprises à son égard, que Dieu lui-même est un roc. Et une grosse pierre, ça peut servir de fondation, pour une construction, pour un fondement, pour bâtir un édifice solide. Et dans l'Antiquité, il y a des pierres qui étaient vraiment monumentales pour pouvoir après asseoir dessus un magnifique temple ou autre. Si nous comprenons et acceptons qui est Jésus, si en entendant ou en lisant l'Évangile, nous voyons effectivement que sa vie était juste, que sa vie a été droite, bonne, compatissante, fidèle, et qu'il est donc mort injustement à la croix, il n'aurait pas dû subir ce terrible châtiment. Par contre, moi, ma vie n'est ni juste, ni vraiment droite, et je mérite donc le châtiment divin pour mes péchés, ma rébellion contre Dieu, que je sois conscient ou pas conscient de cette rébellion d'ailleurs. Donc si je comprends et j'accepte que Jésus est mort à ma place pour me pardonner et me sauver, si je mets ma confiance ainsi en lui, alors ma vie pour l'éternité sera bâtie sur du solide, sur un fondement inébranlable. Et même devant Dieu, lors du jugement dernier, je pourrai me tenir sans honte. Oui, sans honte, car couvert et pardonné par le sang de Jésus-Christ. Je me tiendrai humblement, certes, mais je me tiendrai devant Dieu, en fils du Dieu vivant. Par contre, si je le rejette, si je ne veux pas croire à cela, c'est comme si je marchais dans la vie sur un chemin où je me crois en sécurité, tranquille. Pourtant, une pierre dépasse, mais je ne la vois pas. Un peu aveuglé par mes illusions, et aïe, boum, je trébuche, je me casse la figure. À cause de cette, passez-moi l'expression, foutue pierre qui dépasse. D'un point de vue spirituel, si je n'ai pas compris qui était Christ, si je refuse le témoignage de l'Évangile, si je refuse le témoignage de l'Esprit de Dieu, je suis alors par terre, ou alors je tomberai en tout cas un jour, et je ne pourrai pas me tenir debout devant Dieu lors du jugement divin sans être malheureusement condamné. Je n'aurai pas saisi la grâce du Dieu vivant. Bien triste et dommage, puisque c'est cette grâce qui rend vivant, c'est cette grâce qui donne la vie. En tant que chrétien, nous avons normalement déjà compris, évidemment, cela, pardon de vous faire perdre un peu de votre temps en le rappelant, en insistant sur cet aspect, mais cela est peut-être utile pour certains, que Dieu veut encore aider à comprendre, que Dieu veut encourager à accepter, que Dieu veut encore sauver. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas. Saisissez par la foi la main tendue de Dieu. Ayez soif du Dieu vivant et devenez ainsi fils ou fille de ce Dieu vivant. Romains 9 toujours, à partir du début du chapitre ce coup-ci. Ce que je vais dire est la vérité, dit Paul. J'en appelle au Christ, je ne mens pas. Ma conscience est en accord avec l'Esprit Saint. Me rendez ce témoignage. J'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur, dit-il. Oui, je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé du Christ pour le bien de mes frères nés du même peuple que moi. J'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. Eh oh, Paul, ressaisis-toi, quoi. Un chrétien ne doit pas éprouver cela. T'es fils du Dieu vivant, quand même. C'est une joie totale qui devrait t'animer en permanence, non? Le psalmiste, notre psaume 42 de la première partie du culte, se lamentait également, son âme était abattue. Lui, c'était parce que les gens se moquaient en demandant « Où est ton Dieu ?» Il gémissait de ne plus pouvoir vivre seul ou en communauté, la fête, la joie d'aller à la maison de Dieu, de ne plus avoir accès au temple comme avant. Il pleurait aussi parce que Dieu semblait ne plus lui faire grâce comme avant. Il semblait avoir été oublié de Dieu. Et moi, depuis 10 minutes, je dis que si on est chrétien, on est fils et filles du Dieu vivant, donc vivant nous-mêmes, et que ça doit donc se voir, qu'on doit être enthousiaste. C'est super si c'est le cas. Mais ça serait faux de croire qu'effectivement, on doit en conséquence de notre compréhension de cela toujours être visiblement joyeux, énergique, démonstratif. La réalité, la profondeur, le caractère vivant de notre relation avec Dieu ne s'exprime pas toujours ainsi. N'est pas obligé de toujours s'exprimer ainsi. Si c'est jamais le cas, peut-être faut-il se poser quelques questions, mais il est effectivement aussi biblique de traverser des temps de désert, des temps plus difficiles, des temps où l'on est attristé, même en tant que chrétien. Sans m'y étendre aujourd'hui, je le rappelle pour qu'on n'en déduise pas des choses erronées de ces passages que je partage aujourd'hui pour encourager. Donc pas de culpabilisation si c'est quelque peu difficile pour vous en ce moment, mais plutôt une invitation à rester ou à revenir devant Dieu, dans son intimité, puisant en lui comme notre unique source de vie. Paul, dans ses versets, d'une certaine manière, se lamente aussi. Pas pour lui-même précisément, mais pour les autres, pour son peuple, envers qui Dieu ne semble pas faire grâce. Plus précisément aussi pour son peuple qui refuse la grâce de Dieu. J'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. Oui, je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé du Christ pour le bien de mes frères nés du même peuple que moi. Sont fortes ces paroles quand même, hein ? C'est pas bonne. Dit autrement, ah si le fait que j'accepte moi-même d'être perdu pouvait sauver les autres, je me sacrifierai volontiers pour eux. Si le fait que j'accepte moi-même d'être perdu pouvait sauver les autres, je me sacrifierai volontiers pour eux. Prêt à se sacrifier pour les autres, plus encore prêt à être éternellement damné, seriez prêt à cet extrême-là, vous? Moi, j'avoue que je ne sais pas. Hein. Mais heureusement, Dieu ne nous le demande pas. Dieu ne nous le demande pas, ce n'est pas nous ou les autres. Dieu voudrait nous et les autres. Alors je ne me pose pas vraiment la question du coup. Et même le verset juste avant, que nous venons de lire, avant ce que nous venons de lire plutôt, et que nous avons abordé dans le message il y a 15 jours aussi, hein, je le rappelle, Romains 8, 39, quelqu'un s'en souvient? Ça c'est à apprendre par cœur. Hein. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Se le rappeler, non pas comme une formule magique, mais vraiment comme une promesse de Dieu. Si Jésus est votre Seigneur, rien ne pourra vous en séparer. Même si par amour absolu pour les autres, vous étiez prêt à vous en séparer. Oui, ben alors pour Paul, ça lui coûte pas cher donc de dire qu'il est prêt à être perdu pour les autres, s'il sait que pertinemment qu'il n'y a aucun risque éternel pour lui. Oui, si on est un peu moqueur ou de mauvaise foi, c'est peut-être ce qu'on peut penser à son égard. Mais Paul, et je le crois vraiment sincère dans ce qu'il dit. Son amour du prochain, et là je vous renvoie à la prédication de Sylvie de la semaine dernière, son amour du prochain, de ses compatriotes en particulier, bien qu'il soit pour beaucoup ses persécuteurs, hein, est tel qu'ils se lamentent, se désespèrent au plus haut point de leur refus d'accepter la grâce de Dieu offerte en Jésus-Christ. J'essaie de me souvenir le nombre de fois où je me suis lamenté devant Dieu à ce point parce que mon voisin ou telle autre personne refusait le salut. Est-ce que nous avons ce même amour extrême pour nos contemporains, pour nos prochains, au point de nous lamenter, comme le fait Paul, dans l'intercession pour les gens autour de nous. Personnellement, je dois reconnaître que Dieu doit encore pas mal me transformer à ce sujet, me faire davantage déborder de son amour pour que ce soit fidèlement mon cas. Des fois, je le veux bien, mais plein de fois, je suis plutôt réticent. Et je mets des obstacles à la pleine action en moi du Saint-Esprit. Non, vous pas, bien sûr. Ô Seigneur, nous avons soif de toi, Dieu vivant. Nous avons soif de ta vie et besoin d'une vie qui débordera jusqu'à nos contemporains. Tous les gens que nous croisons dans nos vies, régulièrement ou occasionnellement. Pour reprendre les quelques mots d'une prière assez connue, tu mets la 9. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne dans ma vie, que je fasse ta volonté en soumettant pleinement ma volonté à la tienne. La question clé est ainsi encore et toujours la même. Quelle relation avons-nous avec notre Père Céleste, avec le Dieu vivant? Une relation distendue, un peu en froid, ou seulement épisodique, une fois de temps en temps, seulement le dimanche, ou vivante et proche, quotidienne, permanente? Gros défi, hein? Mais au moins, laquelle voudrions-nous avoir? Laquelle voudrions-nous avoir? Quelle relation avec Dieu voulons-nous vivre? Aimer son prochain ne se décrète pas, mais sera, je pense, même j'en suis certain, une conséquence normale d'une relation vivante avec Dieu, du fait qu'il règne alors pleinement dans nos vies. Nous avons soif du Dieu vivant? Je crois que c'est au fond de nous, on a vraiment cette envie. Et des fois, c'est difficile de le mettre en œuvre. Dans une des paroles de l'Évangile, il y a quelqu'un qui dit « Oui, je crois !» Mais vient secours de mon incrédulité. Conscient, effectivement, il a cette envie, mais des fois, elle tourne court. On peut paraphraser ça en disant vraiment, oui Seigneur, je veux une relation plus vivante avec toi, mais viens au secours de ma faible volonté. Je veux, mais viens au secours de ma faible volonté. Exprimons que nous avons soif du Dieu vivant, mais attention, parce que je pense que ça aura des conséquences. Plutôt chouette, super, ça aura des conséquences. C'est le genre de prière que je pense Dieu honore, auquel Dieu répond, sans aucun doute. Où est ton Dieu ? La question était posée il y a quelques millénaires, elle est encore posée aujourd'hui par beaucoup de gens, très largement posée. Certaines personnes sont myopes, d'autres se voilent volontairement la face, mais certaines sont aussi délibérément rebelles. Quelques-unes, heureusement, sont sincèrement en questionnement, en recherche. Et je trouve que la question est légitime. Où est ton Dieu ? Sauf s'il est juste à des fins de moquerie, mais là, ce n'est pas mon problème, c'est celui des moqueurs. Et je leur en laisse la responsabilité. Puisse alors le Seigneur ne pas endurcir leur cœur, mais faire grâce. Où est ton Dieu ? Si nous sommes des chrétiens vivants, si notre Église est vivante, car en communion étroite avec le Dieu vivant, alors la question ne devrait pas vraiment se poser. Ou plus exactement, la réponse devrait être facile à trouver. S'il est visible que le Dieu vivant est en nous, s'il est visible que nous vivons par lui, pour lui et avec lui, alors les gens devraient pouvoir me pointer du doigt, vous pointer du doigt en disant « Dieu, il est là !»« Dieu, il est là !» Évidemment, entendons-nous bien, hein, il ne s'agit pas de nous prendre pour Dieu, ni même de se croire indispensable dans ce que Dieu pourrait faire à Thonon, à Évian, ou sur le plateau de Gaveau, ou ailleurs. De se croire nécessaire dans l'annonce, et a fortiori dans la réception de l'Évangile par quiconque. Mais quand même, Dieu veut que nous soyons ses ambassadeurs, ses représentants sur terre. Où est Dieu ? Nous le reflétons. Nous le reflétons si nous sommes fils et fils de Dieu, du Dieu vivant. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Vous me comprenez, évidemment. Être enfant de Dieu fera nécessairement de nous des gens différents, remarquables, peut-être dérangeants aussi. Mais tant pis. Vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Merci Seigneur. Et pour conclure, donc, je me permets simplement de reprendre en les modifiant les paroles de Jésus, celles qu'il avait faites en conclusion du sermon sur la montagne. Lui avait dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Peut-être un peu moins ambitieux de ma part, mais encore que, je dis juste « Soyons vivants comme notre Père céleste est vivant ». Amen. Et en disant Amen, attention, hein, danger. Car oui, nous disons que nous avons soif de cela, soif du Dieu vivant. Et je vous invite à prier. Seigneur, tu connais notre cœur plus que quiconque. Tu sais qu'au fond de nous, effectivement, on a soif de toi. On voudrait vivre une relation plus vivante, etc. Mais on s'essouffle vite. Et puis, des fois, notre volonté, on va dire, fluctuante. Combien nous avons besoin de ton aide. Besoin que tu insuffles en nous, effectivement, ce désir, non pas simplement aujourd'hui, ce matin, mais aussi cet après-midi, et demain, et après-demain, chaque jour. Chaque jour, toi le Dieu vivant, remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de cette conscience d'être tes fils et tes filles, et puis de nous en réjouir, et donc de te laisser prendre toute la place, parce que nous sommes insuffisants, nous sommes incompétents. Mais toi, par ton esprit, tu es vivant en nous. Tu es vivant en nous et ça devrait être révolutionnaire. J'ai envie de cela et en même temps j'ai des craintes. Parce que je ne sais pas ce que tu vas réserver pour moi. Mais je sais que je peux te faire confiance, Seigneur. On l'a rappelé, tu es patience, tu es amour, tu es compassion, tu es bonté, tu es fidélité. Aide-moi à m'abandonner davantage entre tes mains alors, à te faire confiance. et à te laisser prendre réellement le contrôle de ma vie, à en être le maître, comme on l'a chanté. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Viens au secours de ma faible volonté. Que, à titre personnel, qu'en famille, qu'avec mon fils, qu'avec nos enfants, qu'en Église, nous puissions vraiment rayonner du fait que tu sois vivant et être vivant nous-mêmes. Non pas pour faire des activités en disant « Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Non, mais simplement en te laissant être réellement vivant en nous, en reflétant qui tu es. Je ne suis pas sûr que ça demande vraiment des efforts, peut-être des fois quand même, mais aide-nous, Seigneur, à te laisser vivre en nous, pour ta gloire et ta gloire seule. Et je le crois, ça donnera vraiment envie à d'autres personnes qui ne te connaissent pas encore de se dire « Mais c'est bizarre cela, j'ai envie de savoir c'est quoi qui le motive ». J'ai envie de savoir ce qui les enthousiasme. Mais Seigneur, nous voulons être différents pour ta gloire. Non pas pour nous enorgueillir, mais vraiment pour attirer d'autres personnes à toi, si dans ta grâce tu permets que nous en soyons des instruments. Merci pour l'Église que tu as créée, fondée, affermie sur ton fondement sûr et solide. Attire d'autres personnes à toi, je te prie. Pour ta gloire et par ta grâce, en Jésus-Christ. Amen.